Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
À la une de Face à Rio Folle, la France s'embrase et Emmanuel Macron ne parvient pas à circonscrire l'incendie. Pire, certains l'accusent de jouer les pompiers pyromanes avec cette réforme des retraites. Le rôle du chef de l'État est pourtant de garantir la paix sociale, de maintenir l'unité de la nation. Emmanuel Macron peut-il tenir? On en parle dans un instant. Dans ce brasier, les forces de l'ordre jouent les pare-feux. Sursollicités, ils font face à des groupes radicaux de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Chacune de leurs interventions est filmée, commentée, des policiers à bout de force, à bout de nerfs. C'est l'édito d'Yvan Rioufol. Enfin, Yvan, vous recevez ce dimanche Ludovine de la Rochère, chef de file depuis 10 ans maintenant de la Manif pour tous, nouvelle présidente du syndicat de la famille. Quelle place a la famille dans la société française? Ses projets, ses ambitions politiques peut-être? Vous lui poserez ces questions. Voilà le programme. Face à Rioufol, c'est parti. Bonsoir, cher Yvan.
Bonsoir, cher Yvan.
Plaisir de vous retrouver. Véronique Jacquet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron peut-il tenir? C'est votre premier thème ce soir. Il s'est exprimé mercredi lors d'un entretien télévisé, espérant enjamber la contestation sur sa réforme des retraites après la validation de sa politique par l'Assemblée lundi. Alors, est-ce qu'il a gagné la partie?
Écoutez, je pense que lui, dans son fort intérieur, pense en effet qu'il a gagné la partie. Mais je crois qu'il risque d'être victime politiquement de sa propre solitude. D'abord, de son propre caractère qui, me semble-t-il, n'analyse pas exactement quel est le rapport de force qu'il a voulu mener, parce qu'il s'est engagé dans un rapport de force sans voir que lui-même était affaibli. Et puis, je crois que sa solitude est due également à sa position aujourd'hui, qui devient celle héritée par la Ve République de son rôle présidentiel. Alors, il me semble aujourd'hui, et là, c'est un autre sujet que l'on abordera peut-être un autre jour, que le rôle du président de la République doit être re-questionné en fonction de la personnalité de ceux qui prétendent à cette fonction-là. Car je trouve que aujourd'hui, ni lui, ni son entourage, ni ses prédécesseurs ne sont à la hauteur, et c'est bien précisément pour ceci qu'il y a une crise en France aujourd'hui, ne sont à la hauteur de ces grands desseins, des grands desseins de la France. Je trouve qu'il y a beaucoup de petits hommes. Et donc, en l'occurrence, là, on voit bien, alors si on se met un quart de seconde dans sa tête, on voit bien qu'il essaye par... En surexposant naturellement des violences insupportables, de se montrer comme étant le garant du parti de l'ordre et qui joue dans le fond à cet apaisement en fonction de la crainte qu'il aurait à susciter de la part des Français qui regardent tout ceci. Mais j'ai l'impression qu'il n'a plus déjà les bonnes cartes en main et qu'il a déjà dû, en fonction de ces éléments qui l'entoure, il a déjà dû rendre les armes. Il a rendu les armes d'abord en annulant in extremis la visite du roi Charles III, qui devait arriver en France dimanche. Il a rendu les armes parce qu'il, en renonçant d'aller à un match de foot vendredi, de peur de se faire siffler par la foule. Et on voit que la réforme des retraites est en train d'être une retraite des réformes, puisqu'il va également renoncer à la réforme de la loi sur l'immigration, ou en tout cas en la tronçonnant. Donc je crains que l'on en arrive à ce point ultime, d'avoir à demander au peuple de trancher. Mais pour l'instant, ce que je vois et ce qui me sidère, c'est qu'il accumule depuis maintenant le début depuis son premier quinquennat une série d'erreurs qui lui appartiennent. C'est-à-dire, outre le fait qu'il ne représente pas sa fonction, je pense qu'il est victime de son propre caractère. Il est victime de sa morgue, tout d'abord, et sa morgue est à éclater après, effectivement, le rejet de la motion de censure, le rejet à 9 mois, puisqu'il a fait dire, et il a dit lui-même, qu'il y voyait une victoire. Il a fait dire, en tout cas, par Mme Borne, la Première ministre, on a le droit d'employer le mot « victoire », ce qui est quand même un manque de lucidité qui me paraît flagrant vu l'état de tension de la société. Lui-même a dit gagner un vote peut être considéré comme une défaite, en oubliant malgré tout que ce vote, cette victoire apparente était une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est ce qui me fait dire que cette arrogance déverse à nouveau des bidons d'huile de la part de cet homme-là, qui me paraît être en effet un président incendiaire. Et puis, il y a également le déni qui est commun à Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire que, j'en avais d'ailleurs parlé ici, on l'avait entendu 8 mois avant que les gilets jaunes ne déboulent sur les Champs-Élysées, on l'avait entendu dire « je ne vois pas, je ne sens pas la colère française ». On l'avait entendu très récemment, et donc la colère française était arrivée évidemment, on l'a entendu très récemment lors du salon de l'agriculture, et on en avait parlé à l'époque. Il a repris cette même phrase en disant « je ne sens pas la colère », et j'avais mis en alerte en disant que s'il ne sent pas la colère, c'est donc qu'elle va débouler, et on la voit naturellement débouler, sauf que dans son entretien de mercredi, il a dit à nouveau « si les Français étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été élu il y a un an ». Donc on voit bien qu'il est incapable de se confronter à la défiance qui s'est installée au cœur de la société, et parce que ce n'est jamais de sa faute. Et sa troisième faiblesse, c'est précisément cette stratégie de l'évitement, c'est-à-dire que à chaque fois que vous observerez, il rechigne à chaque fois à vouloir admettre qu'il ait pu se tromper d'un point ou d'un autre. Et là, sur la réforme des retraites, il a accusé d'abord les Français de ne pas l'avoir compris, qu'il n'y aurait pas eu, soi-disant, suffisamment de pédagogie. Il a accusé très directement, c'est quand même une maladresse insigne, les syndicats eux-mêmes de ne pas avoir fait, apporté des propositions de compromis. Et à tout ceci s'est ajouté encore une réflexion, que, toujours dans son entretien télévisé, qui m'a paru être une réflexion de classe totalement inappropriée, puisqu'il a dit, s'adressant aux smicards, « jamais les smicards n'ont vu autant leur pouvoir d'achat augmenter depuis des décennies ». Donc, avec une sorte de morgue, d'indifférence précisément à la difficulté qu'ont aujourd'hui les Français de la classe moyenne, en tout cas, à boucler les fins de mois, en les appelant des smicards et en faisant comprendre que dans le fond, ils pourraient se contenter de ce qu'ils ont, on voit bien que l'état d'irritation de la société, qui se manifeste naturellement par des violences qui sont indignes, mais surtout par une mobilisation populaire de plus en plus importante, risque de prendre de l'ampleur. Et moi, je pense que cette journée de mardi pourrait ménager bien des surprises. Et donc, on est dans cet enfermement-là.
Mais Emmanuel Macron n'a-t-il pas raison de rappeler que la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus? Je cite le président de la République.
Oui, voilà. Alors, c'est un autre travers qui est celui de jouer avec la peur. Et là, c'est la peur de la foule, la peur du populisme, la peur des extrémismes qui montent, etc. Et là-dessus, il est très doué. Il nous avait joué la peur du réchauffement climatique, la peur du Covid. Là, on est en plein, aujourd'hui, dans cette foule indigne qui viendrait prendre le Capitole ou qui irait prendre le Parlement comme à Bratislava. D'ailleurs, en laissant comprendre que ceux qui menaient le Capitole ou qui avaient pris le Capitole d'assaut aux États-Unis ou Bratislava seraient également cette France d'extrême droite, alors qu'on voit que c'est une France d'extrême gauche. Donc, en plus, avec des mensonges sur la réalité de la situation. La foule, en effet, la foule peut être dangereuse, on le sait. Vous savez, d'abord, c'est Victor Hugo qui dit le peuple est en haut, la foule est en bas. Et ceux qui ont lu Gustave Le Bon savent que la foule peut être mimétique, peut être violente, peut être naturellement lyncheuse. Et tout ceci est vrai. Mais la foule, telle qu'elle s'exprime, en tout cas dans les manifestations, et telle que je la comprends, c'est une foule qui réclame davantage de démocratie. Cette foule-là est un syndrome, elle est le syndrome d'une crise profonde de la démocratie, une crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire que les Français ne se sentent plus représentés, c'est une vieille affaire, par précisément ceux qui sont censés les représenter. Le 49-3 a rajouté une sorte de violence constitutionnelle dans la mesure où le Parlement a été sommé de la boucler, puisqu'il s'apprêtait, dans le fond, à rejeter une réforme. On peut parler de violence institutionnelle. Et puis, il y a un autre sujet qui est moins abordé, mais qui me semble-t-il, explique également cette grande irritation de la société, c'est qu'au cœur même des syndicats progressistes, de la CFDT notamment, vous avez tout un discours qui consiste à rejeter dans les marges ces Français qui se sont reconnus davantage dans le Rassemblement national. J'entends le secrétaire général de la CFDT nous dire à chaque fois que c'est les représentants du Rassemblement national ne sont pas les bienvenus dans les manifestations syndicales, alors que les représentants de la France insoumise le sont. On voit ce qu'ils ont fait très récemment pour cette affaire de Sainte-Soline. Et donc, vous vous rendez compte qu'au cœur même des syndicats qui se réclament de la démocratie, eux-mêmes rejettent une grande partie de la démocratie. Donc nous sommes dans une société totalement éruptive et qui ne voit pas d'autre débouché, malheureusement, qu'à travers la rue. Et donc la rue, en effet, et la foule, en effet, porte aujourd'hui un message qui me semble être un message qu'il faut entendre plutôt que de dire que cette foule serait une foule agressive et qui mettrait à bas la République. Non, il n'y a pas que des factieux et des factions dans cette foule-là. Pour m'y être plongé, j'y ai retrouvé à peu près les mêmes profils que ceux qui manifestaient lors des Gilets jaunes, et cette foule-là est profondément respectable.
Est-ce qu'il la comprend, la foule, Emmanuel Macron, Véronique Jacquier ?
Non, il ne la comprend pas. Il a une solution pour sortir par le haut, pourtant, de cette crise, c'est d'avoir recours au référendum. Ça, ce serait pleinement démocratique, ce serait une façon de dire « je vous ai compris », pour ne pas citer Charles de Gaulle. Et puis les Français, d'ailleurs, comprendraient qu'on les interroge sur quelque chose qui touche à leur vie quotidienne. Hein. Souvenez-vous, en 2005, on les sollicitait pour un traité constitutionnel sur l'Europe. Bon, bah là, la question serait simple, sauf qu'Emmanuel Macron sait très bien qu'il connaît déjà la réponse, donc il n'en veut pas. Il peut tenir et il peut, cela dit, montrer qu'il essaye de comprendre les Français. Vous avez vu quand même qu'il a demandé à Elisabeth Borne de tendre la main aux syndicats, puisque ce soir elle dit qu'elle cherche l'apaisement et qu'elle veut travailler avec les syndicats. Donc là on voit qu'on est en train de passer à autre chose, qu'on est en train de basculer dans autre chose, puisque le président de la République se dit qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. D'ailleurs cet homme est incroyablement seul hein, quand même, quand on y réfléchit bien. Et donc comme par hasard, hop, on veut élargir la majorité, donc on va chercher au coup par coup des voix LR à droite à gauche, et puis on confie tout un programme à Elisabeth Borne. Bon, cela dit, moi je pense que ça va faire un flop, d'une part parce que les 4 ans qui viennent, là, c'est terminé, il n'est plus audible vis-à-vis des Français, il ne capitalisera plus sur sa parole, on l'a vu. Donc effectivement, les martingales politiques, il va toutes les user, une corde après l'autre, mais pour autant, il y a maintenant un désenchantement démocratique tel que l'a très bien expliqué Yvan, même les syndicats ne jouent plus la partition des démocratiques, donc on voit pas trop comment on va s'en sortir. Et puis surtout, n'oublions pas en toile de fond les scènes apocalyptiques de ce week-end à Sainte-Soline, avec cette impunité laissée à l'ultra-gauche quand on est toujours en train de taper quand même sur la droite. Les scènes de violence aussi que nous avons vues dans Paris, avec cette ville qui se tiers-mondise, avec cette grève des poubelles. On a vraiment l'impression quand même que ce début de deuxième quinquennat est vraiment marqué par la chienlit. Donc non, il ne comprend pas la foule, on voit pas trop comment il va s'en sortir.
Je vous donne cette information qui est tombée il y a quelques instants. La première ministre Elisabeth Borne dit ne plus vouloir recourir au 49-3 en dehors des textes budgétaires, veut mettre l'apaisement avec les syndicats, recevra parti et groupe d'opposition la semaine du 3 avril. Yvan Rioufol, est-ce qu'il faut s'attendre, et la question est lourde de sens, à des insurrections populaires ?
Écoutez, c'est naturellement le vœu, c'est la ligne politique qui est choisie en tout cas par la NUPES, puisqu'elle veut une censure populaire. Moi, pour regarder, pour m'être plongé dans cette manifestation précédente à Paris, je n'y ai pas vu une foule hargneuse. J'y ai vu, certes, naturellement, les casseurs qui ouvraient la marche. Il était à peu près, 1000 ou 1000 ou 1500, mais j'ai vu ensuite une foule paisible. Et donc, il ne faudrait pas, malgré tout, que l'on confonde les casseurs ou les scènes d'incendie et ce grand mouvement populaire de protestation qui risque d'enfler et qui va bien au-delà, qui porte un message qui va bien au-delà de ces scènes catastrophiques que l'on voit. Et je pense que oui, en effet, ces gens-là sont des gens paisibles, mais ce sont des gens qui pourraient à un moment donné se lasser et être contaminé, si je puis dire, par cette violence, comme les gilets jaunes du départ avaient été, à un moment donné, imprégnés par la violence qui avait été celle des antifas. Et on avait vu, à un moment donné, ces scènes de gilets jaunes applaudissant les antifas montés au front, si je puis dire. Oui. Et donc, on est dans cette situation de tension, aggravée en plus par d'autres maladresses du président de la République et de sa première ministre, de dire à chaque fois « il n'y a pas d'alternative ». Vous avez ce credo qui revient tout le temps dans le discours présidentiel, de dire, mais et encore une fois, depuis le départ, tout ça, ce sont des fondamentaux du macronisme, de dire, lors de la crise du Covid, par exemple, il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que tous ceux qui protestaient ou qui voulaient mettre des positions un peu divergentes étaient priés de se taire. Et là encore, il l'a redit, en se targuant d'avoir gagné donc cette procédure de la motion de censure, il n'y a pas d'alternative au prétexte qu'il considérerait que ceux qui se réclameraient de la droite populiste seraient effectivement des incapables. Mais bon, d'abord, on n'en sait rien, et lui s'est fait élire en disant « si ce n'est pas moi, ce sera le chaos ». On voit bien qu'il s'est fait élire et que c'est le chaos. Donc, je pense que les Français voient tout cela et qu'en effet, si le gouvernement continue, mais vous m'avez donné de la part de Mme Borne déjà l'expression de son réalisme en renonçant au 49-3, parce que ça aurait été naturellement une étincelle supplémentaire. Donc je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ce que le gouvernement maintenant fasse attention, mais je suggère malgré tout de regarder au-delà de ce qui se passe à Paris. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire ne se fait plus tellement à Paris, qui est un Paris qui s'est gentrifié, qui s'est embourgeoisé. C'est un Paris qui est mené naturellement par la NUPES, mais la NUPES est d'abord un parti de petits bourgeois, dans le fond. Et j'invite davantage à regarder, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir quelles sont l'ampleur des manifestations dans les provinces. Parce que c'est là, dans cette France décentralisée, dans cette France girondine, que s'écrit l'histoire à travers une société civile qui s'écarte de plus en plus des syndicats. Et d'ailleurs, peut-être que les syndicats risquent de perdre la main. Alors, je ne sais pas si ce sera en bien ou en mal, mais j'invite davantage les médias, plutôt que de se focaliser sur les feux de poubelle de Paris, à regarder exactement ce qui se passe en province. Et ce qui se passe en province est beaucoup plus calme, d'abord, sauf à Nantes ou à Rennes, mais enfin, dans des grandes villes comme Marseille ou tout ceci, on n'a pas ces mouvements d'insurrection qui se traduisent simplement par des feux de poubelle. Il faut aussi relativiser, pardon, pour l'instant. Oui, je vois que vous êtes dubitatif.
Parce qu'à Bordeaux, mairie de Bordeaux, par exemple,
très impressionnable. Ou d'accord,
mais c'est de ma faute.
J'invite à ne pas tomber simplement dans cette facilité de ne regarder que ce qui brûle. Je pense que ce qui brûle pour l'instant, c'est une démocratie irritée et que le peuple est en train de porter un discours qui pourrait être un discours potentiellement révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme.
Autre thématique. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre peuvent-elles tenir le choc ? Les forces de l'ordre qui sont sursollicitées comme jamais par le gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont à bout de force, à bout de nerfs, ces forces de l'ordre, et ça peut craquer ou pas ?
Moi, je pense que les forces de l'ordre sont à bout de nerfs, naturellement. En plus, avec ces stratégies d'éclatement des conflits où les forces de l'ordre se multiplient sur tous les fronts, elles ne peuvent pas tenir, bien entendu. Mais encore une fois, je pense que si effectivement ces forces de l'ordre sont fragilisées, c'est parce que la République elle-même s'est fragilisée. C'est-à-dire que moi, j'en veux beaucoup. D'abord, au discours commun qui a été de dire que c'était l'extrême droite qui était le fauteur de troubles en se masquant quels étaient effectivement les graves dangers pour la démocratie qui étaient portés par l'extrême gauche, l'ultra-gauche, appelez-la comme vous voulez, et qui porte effectivement un discours d'insurrection pour faire tomber une démocratie. Et ceci, personne n'a voulu le voir, et c'est ce qui éclate à nos yeux aujourd'hui. Donc, j'en veux beaucoup à ceci, et je rappelle aussi que depuis 1789, malheureusement, la violence politique paye. C'est-à-dire que 1789, dont on fête le 14 juillet l'anniversaire à chaque fois, a été une journée épouvantablement violente, où l'on a même coupé des têtes. On n'en est pas là, Dieu merci. Mais également, la violence a été un fait politique qui a obligé, sur la ZAD de près de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes, qui a obligé le pouvoir à reculer, alors même que la population locale avait accepté par référendum ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Je n'oublie pas que 17 milliards ont été déversés sur les gilets jaunes quand ils ont décidé de passer à l'acte très violent aux alentours de l'Arc de Triomphe en décembre 2014. Mmh. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la violence est devenue malgré tout un argument supplémentaire qui est... l'histoire de la France et de ses révolutions est ainsi faite également, que les révolutions ne se font aujourd'hui plus que par la violence. Alors, je ne sais pas si nous sommes encore en révolution ou pas, mais en tout cas, je pense que cette violence-là, naturellement, il est indéfendable, bien entendu, mais explicable par cette faiblesse intrinsèque qu'a l'État, effectivement, à ne pas pouvoir argumenter et à ne comprendre, dans le fond, que cette violence-là, quand elle a comme ultime résonance le fait de secouer un petit peu la léthargie des pouvoirs en place.
Trois jours après le saccage de l'Arc de Triomphe, Édouard Philippe qui dit « Aucune taxe ne mérite de mettre l'unité de la nation en danger ». Véronique Jacquier, ces forces de l'ordre aujourd'hui, elles sont épuisées et attaquées aussi par une partie de la classe politique. On entend violence policière, on a entendu Jean-Luc Mélenchon ce soir dire « il faut supprimer cette fameuse brave M ». Et si on est en poste, on supprime, mais surtout, ils vont se faire soigner. C'est ce qu'il a dit sur LCI, notamment.
Ce qui me paraît très grave, notamment quand nous regardons les images de Sainte-Soline, c'est qu'on n'a plus affaire à des manifestations. Ce sont des champs de bataille. On a quand même des gens de l'ultra-gauche qui viennent avec un sac à dos, avec des armes dedans. Donc, on est en train de faire des gendarmes et des policiers de la chair à canon pour des gens de l'ultra-gauche. Et ce qui me paraît extrêmement dangereux, c'est que nous avons quand même des black blocs qui viennent de l'étranger, qui passent la frontière comme ça, alors qu'on sait qu'il y a une véritable volonté de nuire sur le sol français. Alors, d'une part, il y a quand même une forme de complaisance ou de faiblesse. Et d'autre part, il faut quand même attaquer le mal à la racine. Le mal à la racine pour ces gens qui viennent en voulant détruire la République de l'intérieur, ce sont d'abord ce qu'on leur apprend, pour certains dans les manuels scolaires, à savoir que c'est la fin du monde, qu'il faut prôner la décroissance, qu'il faut un autre système. On met ça, cette pourriture-là, dans la tête de ces enfants, et ça donne ensuite ce que ça donne à Sainte-Soline. Et la deuxième chose qui me paraît aussi très importante, c'est des cours qui sont donnés à l'université où l'on incite au recours à la violence en politique. Ça s'enseigne aussi. Il y a un théoricien suédois, par exemple, qui s'appelle Andreas Malm, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline ». On apprend ces techniques de sabotage. Et voilà ce qu'on met dans la tête de nos jeunes dans certaines universités en France. Il me semble quand même que le gouvernement pourrait faire quelque chose.
Une dernière question avant la publicité. Yvan, vous vouliez revenir sur les cités. Est-ce qu'elles sont pour l'instant, et c'est un fait, absentes des manifestations ? Pourrait-elle rejoindre cette mobilisation?
Oui, ça c'est une constatation qui n'est pas souvent relevée et qu'en effet, jusqu'alors nous avions vécu depuis les grandes émeutes urbaines de 2005 avec des cités qui étaient en éruption. On voit aujourd'hui que les cités sont plutôt calmes et que l'éruption vient précisément de cette France profonde-là, de cette France des petits blancs. Alors donc il y a une interrogation à avoir de savoir si les cités vont rejoindre ou non ce mouvement. On avait observé que lors des gilets jaunes, les cités, enfin les voyous des cités, les rejoignaient pour saccager les commerces en fin de parcours. Certains policiers me disent qu'ils observent le même phénomène aujourd'hui. Mais le fait est que pour l'instant, les cités se tiennent à l'écart de cette contestation sur les retraites, comme si elles ne se sentaient pas concernées. Moi, le scénario noir qui serait celui à craindre pour le pouvoir serait que les policiers, qui sont les premiers à manifester, il y a aussi quand même une sorte de schizophrénie chez les policiers, ils sont très majoritairement contre les retraites, ils sont dans les manifestations, et en même temps, ils les répriment par la force, naturellement, de leur mission. Et donc, le scénario noir serait ce scénario qui a été observé la dernière fois dans les manifestations. On a vu que des pompiers en uniforme ont rejoint les manifestants et ont été applaudis par eux, que certains policiers pourraient rejoindre également les manifestants, comme ils avaient rejoint les révolutionnaires en 1789. Et là, naturellement, ce serait un bouleversement total. Et j'observe que le secrétaire général du Parti communiste a lancé cet appel aux policiers en leur disant de laisser tomber la matraque pour venir rejoindre les manifestants. Je pose cette hypothèse qui semble peu probable, parce que quand vous interrogez les policiers là-dessus, ils assurent qu'ils sont naturellement pris par leur métier et leur mission de protéger la République et qu'ils n'iront pas à revers de la République. Mais en même temps, je pense qu'ils ont un cas de conscience aujourd'hui et que certains d'entre eux pourraient peut-être passer le pas.
La publicité. On revient dans un instant. Vous recevez dans un instant Ludovine de La Rochère. Face à Rioufol, la deuxième partie, toujours avec Yvan et Véronique, et nous a rejoint sur le plateau Ludovine de La Rochère. Merci d'être avec nous, Ludovine. Les téléspectateurs vous connaissent bien sûr. Vous êtes présidente depuis 2013 de la Manif pour tous et vous êtes la nouvelle présidente depuis ce 24 mars du syndicat de la famille. Alors pourquoi avoir invité Ludovine de La Rochère, Yvan ?
Eh bien parce que vendredi soir, donc, la Manif pour tous, qui existait depuis plus de 10 ans, a disparu. Pour laisser place au syndicat de la famille et la Manif pour tous, pour ceux qui l'avaient oublié, en 2013, et notamment sur l'impulsion initiale de Frigide Barjot, qui était très médiatique, avait fait descendre dans les rues des milliers de personnes, deux ou trois fois de suite en 2013, dont une grande manifestation le 24 mars 2013, dont vous fêtiez également le 10e anniversaire, et avec une mobilisation de la société civile, qui depuis n'a pas été renouvelée. C'était une manifestation d'une société civile conservatrice, certes, mais les progressistes qui ont voulu mimer ensuite ces mobilisations-là n'ont pas réussi à arriver à la cheville. Donc, ma première question était une question, dans le fond, un peu naïve, de savoir si cette société conservatrice, dans le fond, existait toujours, ou si vous prenez acte, dans le fond, d'un manque de dynamisme aujourd'hui de cette Manif pour tous que vous avez enterrée sans tambour ni trompette.
Alors en fait, au contraire, cette société civile qui veut défendre la famille, elle est toujours elle y est toujours extrêmement attachée parce qu'elle en voit toute la nécessité, le caractère irremplaçable et j'allais dire la société d'aujourd'hui dans lesquelles montent les problèmes de délinquance, de violence, dans laquelle la famille se défait, l'engagement se défait, la natalité s'écroule. Eh bien, ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté en 2013, mais aussi en 2015, en 2016, en 2019, encore en 2020, se rendent compte qu'il faut changer de paradigme et peut-être se présenter autrement, agir différemment, c'est-à-dire sous la forme d'un syndicat. Mais on voit bien que la famille, en France, est très attaquée, très critiquée, très exclue aussi, il n'y a même pas de ministère de la famille, et donc il a paru absolument impératif de poursuivre la défense de la famille que nous menons depuis 10 ans, mais d'une autre manière, et en étant encore plus explicite sur cet objectif de défendre la famille.
C'est-à-dire que vous renoncez aujourd'hui à ces grandes manifestations populaires, de faire redescendre dans la rue des Français pour défendre un idéal qui est celui de la famille ou celui de... qui était contre le mariage pour tous, c'est-à-dire contre le mariage, contre la loi Taubira.
C'est-à-dire que la Manif pour tous, elle a toujours défendu, effectivement, en l'occurrence, le respect de la différence des sexes et donc de la complémentarité homme-femme pour fonder une famille. Donc la Manif pour tous a défendu le mariage, mais aussi le respect des besoins et des droits de l'enfant, la filiation père-mère-enfant. Donc s'est opposée et continue à s'opposer, bien sûr, à la PMA sans père et s'oppose à la gestation pour autrui. Tout cela, c'est un bloc idéologique, toutes ces revendications mariage de personnes de même sexe, PMA sans père, GPA, ce sont des revendications idéologiques qui sont fondées sur le gender, maintenant on dit plutôt le wokisme, et qui nient la différence des sexes. Or, elle est fondatrice de la famille. Sans elle, la famille n'est pas. Et nous ne renonçons pas, pour revenir à votre question, du tout à manifester. Un syndicat, ça revendique, ça défend, ça propose, ça alerte, mais ça mobilise, et notamment par des manifestations. Il est fort possible, compte tenu des mesures qu'on peut craindre, des projets qu'on peut craindre dans les temps qui viennent, que nous ayons à nouveau à manifester. Mais nous avons aussi beaucoup à proposer, c'est-à-dire que les politiques, pour une part, sont très critiques à l'égard de la famille et ne cessent de proposer des mesures qui, en fait, déstructurent la famille, alors que la personne et la société ont absolument besoin de la famille. Il n'y a pas de l'éducation d'un enfant, qu'un enfant soit aimé, entouré, éduqué, qu'il vive si possible, dans la mesure du possible bien sûr, avec ceux qui lui ont donné la vie, eh bien c'est quelque chose qui est absolument indispensable.
Qu'est-ce que vous combattez et qu'est-ce que vous demandez ?
Alors, et puis vous avez du côté d'un autre côté de l'échiquier politique un certain nombre de politiques qui ne disent rien sur la famille, qui n'ont pas d'idées sur la famille et qui n'ont justement pas de propositions. Et pour venir à nos propositions, c'est d'abord d'avoir une vision globale sur la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, vous parliez de la loi Taubira, elle était portée par le ministère de la Justice alors qu'il s'agit du mariage. Vous avez les lois dites de bioéthique qui sont portées par le ministère de la Santé, alors qu'on parle pour une large part de la procréation et de la filiation. On travaille tous les sujets, ou on approche les sujets complètement en silo. Alors, il y a la politique familiale, alors il n'y a même plus de ministère de la famille. Faut savoir que 80% des Français vivent en famille. La France compte près de 19 millions de familles. Il n'y a même plus de ministère de la famille depuis 2017. C'est absolument invraisemblable. Et encore une fois, la famille structure la société, et en particulier parce qu'elle éduque les enfants. Et nous proposons d'avoir une vision globale. Nous défendons la famille, la paternité, la maternité, les droits et les besoins de l'enfant, la solidarité intergénérationnelle. Et nous souhaitons aussi faire valoir que de la natalité à la fin de vie, de l'éducation à la santé, de l'emploi à la culture, on est le regard et une approche qui prennent en compte la famille. Aujourd'hui, les parents ont de plus en plus de mal à élever leurs enfants. Malraux qui parlait des enfants, ces grands aventuriers du 21e, les aventuriers du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Tout va à l'encontre de l'éducation des enfants. Alors que la famille est de moins en moins soutenue, aidée, encouragée. Les mesures de déconstruction n'ont fait que s'accélérer au fil du temps. Et donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de braquet, parce que nous pensons que si la société va mal, s'il y a une forme de dissociété, c'est parce que la famille va mal. Et ce constat, Il est fait depuis déjà des dizaines d'années. Par exemple, Evelyne Sulro, qui est l'une des fondatrices du planning familial, a publié en 2000 un livre qui s'appelait « La crise de la famille ». C'était pas une conservatrice. Elle constatait la réalité des familles qui ne se font plus, qui ne se font pas. Le mariage s'écroule, par exemple, et aujourd'hui même la natalité. En même temps, la famille est fragilisée. Et il faut donc la soutenir et l'encourager. Il faut agir pour anticiper ces difficultés. Il y a urgence à mettre cette réflexion sur la famille au cœur de nos politiques publiques, dans des aspects absolument fondamentaux. Donc, je l'évoquais, l'union, le couple qui s'unit pour fonder une famille, le mariage. Et il faut mettre en valeur le mariage. C'est la forme d'union la plus stable, la plus protectrice pour l'enfant, qui a besoin de stabilité. Et puis, donc, la procréation, etc. Mais au-delà, c'est la vie familiale qui doit être prise en compte.
On va reprendre en détail vos mesures. Véronique Jacquier.
Oui, les propositions, c'est une chose. Faire bouger les lignes, c'en est une autre. Comment faire sans avoir de relais fort en politique? Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vraiment agir et donc, à ce titre, être vraiment crédible?
Alors, pour tout vous dire...
Parce que sinon, on va vous cornériser. Vous allez subir le même sort que la manif pour tous.
Alors... en vérité, si vous voulez, depuis 10 ans que nous agissons, alors nous sommes très connus pour les manifs que nous avons faites, bien entendu, mais nous n'avons pas cessé en permanence de rencontrer des élus locaux et nationaux, de rencontrer des institutionnels, de faire des propositions, de communiquer, de former. Et tout ce travail, contrairement à ce qu'on croit souvent, il a porté des fruits. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple de la gestation pour autrui, aujourd'hui et depuis en fait 10 ans, il n'est plus question de légaliser la gestation pour autrui. Il y avait eu des propositions de loi de légalisation avant. Aujourd'hui, il n'est plus question de la légaliser.
Alors, attendez un peu.
Non, mais il y avait eu des propositions de loi déposées au Parlement. Il n'y en a plus depuis 10 ans et il y a eu au contraire des propositions de loi pour renforcer l'interdiction. En revanche, il y a une bataille pied à pied sur la question des transcriptions des actes de naissance des enfants des GPA. En prétendant, les progressistes ou les associations LGBT prétendent, qui portent cette revendication de la GPA, prétendent que ces enfants n'ont pas d'identité, ce qui est absolument faux. Ils ont heureusement et évidemment un acte de naissance qui est reconnu par la France, même s'il est établi à l'étranger. Donc il y a une bataille pied à pied parce qu'en face de nous...
Et vous demandez quoi, vous ?
Et nous, on demande qu'on soit beaucoup plus ferme face à la pratique et au recours à la GPA à l'étranger. La France ne peut pas tolérer l'exploitation de femmes, la location de femmes et l'achat d'enfants, ni sur son territoire, ni à l'étranger. Et donc nous, nous demandons notamment qu'on interdise aux Français aussi d'avoir recours à la GPA à l'étranger, entre autres mesures. Et par ailleurs, la non-marchandisation du décor, elle doit être constitutionnalisée, puisqu'aujourd'hui, il y a une marchandisation qui se répand, non seulement des corps, mais aussi des produits du corps humain, et je pense aux gamètes sexuels.
Est-ce qu'il y a une mesure phare qui pourrait résumer, dans le fond, pour que nos téléspectateurs comprennent bien votre position, une mesure phare qui pourrait résumer votre position sur la famille? Quelle serait l'urgence d'une mesure pour venir en aide à la famille?
Alors, je vais vous dire, l'urgence, ce serait d'abord d'avoir un ministère de la famille qui ait des capacités transversales, c'est-à-dire qui puisse, comme c'est le cas de certains ministères, travailler en transversal avec l'ensemble des autres ministères et que nos projets politiques, d'une manière générale, soient décidés en tenant compte de leur impact sur la vie familiale. Ça, c'est absolument impératif, c'est extrêmement urgent. Je vais vous prendre un autre exemple, la fin de vie. Alors, on parle, bien sûr, à propos de l'euthanasie et du suicide assisté, on parle des patients, des malades, à juste titre, on parle des soignants, ce qui est tout à fait nécessaire et légitime, mais quand parle-t-on de la famille? La fin de vie, elle est accompagnée par la famille, par les plus proches, et c'est eux qui sont les premiers concernés en dehors du patient, bien sûr, et qui vont vivre de telle ou telle manière, et parfois extrêmement douloureusement, la manière dont la personne s'éteint, la manière dont elle part. Et donc la question de l'euthanasie et du suicide assisté, la famille doit être aussi au cœur de ceux qui sont consultés et de ceux qui sont pris en compte dans ce débat. C'est ceci dit, pour prendre un exemple. Pense aussi qu'une mesure extrêmement importante serait de respecter réellement les droits et les besoins de l'enfant. Aujourd'hui, on en est loin, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant est instrumentalisé, on prétend à toutes sortes d'études et en réalité, on ne cesse d'aller contre les besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Je prends la PMA sans père, typiquement. On a déclaré que les pères, c'était secondaire. Et schlock, Légalisons la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules. C'est absolument invraisemblable. Mais on le fait dans bien des domaines. Je prends la question de la pornographie. Il faudrait l'accès à la pornographie des mineurs. On devrait être beaucoup plus ferme et efficace. Et quand on en a la volonté politique, on peut dans ce domaine-là. Et puis, aujourd'hui, on a un sujet très grave qui est l'incitation, le prosélytisme. Je parlerai même de propagande auprès des mineurs pour leur dire « t'es peut-être pas un garçon, t'es peut-être pas une fille ». Et il faut que tu t'auto-détermines pour être heureux et éventuellement tu changes de sexe avec des effets irréversibles. C'est un scandale absolument incroyable sur le plan humain. Alors là, c'est aux familles et non pas à Monsieur Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale. Je pense à sa circulaire sur ce sujet-là. Ce n'est pas à l'école ni à la CAF d'ailleurs de traiter ce sujet. C'est aux familles et il y a une défiance vis-à-vis des familles et vis-à-vis des parents de nos gouvernants.
Donc vous vous affrontez très directement, sans avoir à prononcer le mot, vous affrontez cette idéologie du wokisme, c'est bien ceci. Vous êtes la première,
Absolument.
Est-ce qu'on peut résumer votre position vous êtes la première opposition officielle au wokisme, qui est donc cette idéologie qui invite à choisir soi-même son sexe et à choisir soi-même son genre.
Absolument, mais cela fait 10 ans que la Manif pour tous dénonce l'idéologie du genre. En 2012, en fin 2012, nous disions, dans les premières manifestations, on veut du sexe, pas du genre. On voyait déjà que le substrat de ce à quoi nous avons assisté ces dernières années consistait à dire homme ou femme, ça n'est qu'une construction, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut marier deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme, ça revient au même, et on peut avoir un enfant qui aura prétendument deux pères ou deux mères, ce qui est une aberration anthropologique et qui ne tient pas compte de la réalité. Et la suite, ce qui se déroule, c'est toujours le même raisonnement, c'est on n'est pas homme ou femme, donc un enfant n'est pas forcément garçon ou fille, et c'est à lui, suivant son ressenti subjectif et intérieur, de s'autodéterminer. Mais on emmène les enfants, des ados, dans une illusion, dans une chimère, et dont malheureusement, ils paieront des dégâts, des conséquences dramatiques. Et donc cette opposition au wokisme, qui attaque en particulier la différence homme-femme, mais aussi la famille, elle est absolument nécessaire, parce qu'autrement, on voit bien, pour revenir à la famille, à quel point elle se défait, à quel point elle se déstructure, et à quel point nous avons un problème d'éducation. Si l'éducation nationale, d'ailleurs, ne peut plus enseigner, c'est notamment parce qu'elle voit arriver dans les écoles, à l'école, des enfants qui ne sont plus, que les parents ne parviennent plus à éduquer. Il y a un manque immense et je n'entends pas les politiques en parler, je n'entends pas les politiques s'en soucier. Alors si, personnellement, dans des rendez-vous privés, en entretien, ils comprennent tout à fait ce que je développe là, cela les intéresse, mais au-delà de ça, il faut aussi développer une certaine culture de la famille et des propositions, et c'est ce que nous voulons absolument faire dans les temps qui viennent.
Combien de divisions derrière vous, parce que vous avez beaucoup d'ambition, mais on a du mal à comprendre avec qui vous allez travailler et comment vous allez peser, surtout dans le débat.
Alors, je vous remercie de cette question. D'abord, nous appelons à se syndiquer, à devenir membre du syndicat de la famille. Yvan le rappelait tout à l'heure, les manifestations de la Manif pour tous, donc de 2013, mais encore jusqu'en 2020, même si les médias s'y sont moins intéressés, ce sont des manifestations immenses et nous avons toujours une partie de la population française qui est derrière nous. L'autre jour, l'IFOP a fait une étude qui disait que 25% des Français défendent et sont en adéquation avec nos idées. Puis je vais vous dire, la famille, elle est plébiscitée par les Français. Toutes les enquêtes le montrent. Les politiques, pour des tas de raisons, ne veulent pas en parler, ne veulent pas s'y intéresser, ne sont pas à l'aise, ou alors au contraire, veulent plus d'individualisme et donc vont contre la famille. Mais la famille, elle est plébiscitée par les Français.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une concordance des luttes, puisque cette expression est à la mode, qui ferait se rassembler la Manif pour tous et les gilets jaunes du premier épisode,
mais
les
tout à fait, tout à
de
fait.
Cette France plutôt conservatrice d'ailleurs, et qui pourrait sur ce dénominateur commun être d'accord avec vous.
Partout où je vais, les gens viennent me voir en me remerciant pour ce que je fais. Alors ils en font pas, ça ne veut pas dire qu'ils viennent manifester, mais ils voient très bien, ils comprennent très bien à quel point on est dans une déconstruction qui est gravissime et que nous payons très cher. Et tous, sur un plan humain, c'est très très grave. Et bien sûr, en particulier les plus vulnérables. Et les gilets jaunes, jeunes. Nous les avons longuement et souvent rencontrés. Nous avions même fait une enquête auprès des Gilets jaunes parce que nous étions très frappés de ce qu'ils parlaient sans cesse dans leurs inquiétudes, dans leurs préoccupations, dans leurs urgences de la fin du mois et pas de la fin du monde, comme ils disaient. Ils parlaient sans cesse de leurs parents âgés, de leurs enfants. Et c'était cela qui les préoccupait. C'était le moteur qui les guidait pour dire on ne peut plus y arriver, on ne va pas y arriver. Et c'était pour leurs proches, pour leurs familles qu'ils s'en souciaient. Et
avec cela est pourtant des familles un peu déstructurées malgré tout, souvent
avec,
dans ces...
En même temps, des familles assez déstructurées. Il faut dire qu'on nous a tellement, et on pousse tellement à l'individualisme, on a tellement déconsidéré et dévalorisé le fait de s'engager, qu'il y a moins d'engagement aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de mariages. Et donc il y a moins de stabilité dans la société et on sait depuis des années que le taux de séparation des couples, qu'ils soient concubés, paxés ou mariés, est extrêmement important. Et donc le lien qui reste pour toujours et toute la vie et quoi qu'il arrive, et c'est là où la famille est fabuleuse, même si elle a aussi ses difficultés, il ne faut pas non plus l'idéaliser, elle est nécessaire, mais bien sûr elle a des difficultés aussi, et c'est pour cela qu'il faut la soutenir, mais ce lien indéfectible, il est avec les parents et avec les enfants, parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments de difficulté et de brouille, eh bien, on reste l'enfant, ou parent, pour toujours. Et c'est ce lien qui est tout à fait particulier. Les liens familiaux sont tout à fait particuliers et spécifiques. C'est différent de l'amitié, c'est différent des autres relations qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, j'ajoute que pendant le confinement, les Français sont allés se confiner en famille. Tous les Français. Alors, on entendait le gouvernement, la seule chose qu'il était capable de dire, c'est il est dangereux pour les enfants d'être confinés en famille. Mais c'était invraisemblable. Oui, il y a des familles qui ont des difficultés et c'est pour ça qu'il faut l'encourager, la soutenir, travailler à anticiper les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et qui sont, dans ce cas-là, justement, humainement, d'autant plus graves que c'est la famille. Et en même temps, le gouvernement aurait pu souligner que les parents avaient assuré tous les rôles auprès de leurs enfants et, sauf exception, avaient été tout à fait remarquables et nécessaires.
Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, donc nouvelle présidente depuis vendredi du syndicat de la famille. Merci Yvan. Merci beaucoup Véronique. Dans un...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.